Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin avec le Mali. Après la libération du secrétaire général du CODEM, l'opposant Alassane Abba, vous entendrez le président du parti assurer que sa détermination à lutter pour la démocratie reste intacte. La Côte d'Ivoire et la question de la stratégie du PDCI dans l'optique de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Le parti aujourd'hui n'a plus de candidats éligibles. On parlera aussi du Rwanda, Kigali qui claque la porte de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, et qui met en cause la République démocratique du Congo. Du sommet sur les océans, il s'ouvre demain à Nice, dans le sud de la France, et puis du Ghana, où Interpol vient d'émettre une notice rouge contre un ancien ministre des Finances. Explication avec notre correspondant à Accra. Nous sommes donc à Bamako après la libération cette semaine d'Alassane Abba, le secrétaire général du parti d'opposition CODEM, Convergence pour la démocratie. Alassane Abba qui aura donc passé un peu moins d'un mois en détention puisqu'il avait été arrêté au début du mois de mai. Ousseini Amiong Gindo est le président du CODEM. Il indique ce matin qu'Alassane Abba va bien et qu'il reste engagé pour la démocratie au Mali.
Cette libération, surtout à la veille de la Tabaski, c'était un immense soulagement pour d'abord sa famille et aussi ses camarades politiques. Alassane Abba a regagné sa famille jeudi dans les environs de 19h. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une bonne apparence et il n'a pas été torturé. Bien entendu, après 4 semaines dans des conditions pareilles, forcément, psychologiquement, il accuse un coup. Mais cette égratignure n'empêchera en rien Alassane Abba de continuer son engagement pour la justice, pour le droit et pour la démocratie dans notre pays. S'il y a aujourd'hui quelque chose qui inquiète l'ensemble des Maliens, c'est la montée en puissance des terroristes. L'ordre du jour n'est pas au règlement de compte politique. L'ordre du jour est à comment faire face à cette menace qui déjà est à nos portes.
L'opposant malien Ousseini Amiong Gindo, président du parti CODEM. Le Mali, où d'après nos informations, l'armée a quitté totalement le camp militaire de Boulkessi, importante caserne dans le centre du pays, camp attaqué à 2 reprises cette semaine par des djihadistes. Plus de détails à lire sur RFI.fr. Quelle stratégie pour le PDCI en Côte d'Ivoire, où le principal parti d'opposition est contraint de se reposer la question après la confirmation cette semaine que son président ne figurait pas sur les listes électorales et ne pourra donc pas prendre, comme par ailleurs plusieurs autres opposants et candidats déclarés, part à la présidentielle prévue au mois d'octobre. Aujourd'hui donc, le PDCI continue de soutenir ouvertement la candidature de son président, Tidjane Thiam, mais alors que l'élection se rapproche, les incertitudes commencent à entourer la stratégie de la formation à Abidjan, correspondance de Benoît Almeras.
Tout le monde peut être candidat, mais pour gagner, c'est Tidjane Thiam. Voilà comment le député Soumaïla Bredoumi écarte tout débat autour d'un plan B en vue de la présidentielle. Problème, le chef du PDCI ne peut pas s'aligner. Le parti d'opposition risque donc de manquer sa 3e élection consécutive. À cela s'ajoute le flou autour du retour de Tidjane Thiam. L'opposant n'est plus en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 mois. Dans ce cadre, les analystes joints par RFI esquissent plusieurs scénarios. Parmi eux, le report des ambitions de Tidjane Thiam à 2030. Il aurait alors 68 ans, l'âge auquel Alassane Ouattara a accédé à la présidence. Cette temporisation permettrait au PDCI de préparer les législatives prévues l'an prochain. Moins probable, l'adoubement d'une candidature alternative à la dernière minute, avec le risque, en termes d'image, d'un faible score lors du scrutin du 25 octobre prochain. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Liberia, l'ancien président de la Chambre des représentants, Jonathan Fonati Kofa, est en détention. On apprend qu'il est inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie qui a touché le Congrès à Monrovia au mois de décembre dernier. Et d'après le chef de la police, il existe des preuves solides contre lui. Au Ghana, c'est un ancien ministre des Finances qui est dans la tourmente. Interpol vient d'émettre une notice rouge, c'est-à-dire une demande pour le localiser et procéder à son arrestation contre Kenneth Oforiatta, une des figures de l'administration de l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le procureur l'accuse d'avoir retiré des avantages personnels de ses fonctions. À Accra, la correspondance de Victor Cariou.
Au total, Kenneth Ofori Atta est accusé de corruption dans 5 affaires en lien avec des contrats publics. La plus spectaculaire restant la gestion désastreuse de la construction de la cathédrale nationale, un projet pharaonique de plusieurs dizaines de millions de dollars qui n'a jamais abouti. Dans chacun de ces cas, l'ancien ministre des Finances, en poste dans un Ghana en pleine crise économique, en aurait tiré un profit financier personnel. C'est en tout cas ce que lui reproche le bureau du procureur spécial ghanéen. Après l'avoir déclaré en janvier comme suspect dans ses affaires, la justice considère Kenneth Ofori Atta comme fugitif un mois plus tard, faute de s'être présenté aux autorités. Une qualification injuste, selon la défense de l'ancien ministre. Ce dernier serait actuellement à l'étranger pour raisons médicales, une version que le procureur spécial a décidé de ne pas croire en raison d'absence de preuves, selon les autorités. Depuis la réélection en janvier du président John Dramani Mahama, le pouvoir en place a lancé plusieurs dizaines de procédures judiciaires à l'encontre de responsables de l'ancienne administration. Victor Cariou, Accra, RFI.
RFI, 10h36, à Kigali, la colère du Rwanda ce matin. Kigali qui a annoncé ces dernières heures quitter la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Hier, à Malabo, s'est tenu un sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Et le Rwanda aurait dû en prendre la présidence tournante, mais ce n'a pas été le cas. La présidence de la CEAC est restée à la Guinée équatoriale. Et dans la foulée, les autorités rwandaises ont dénoncé par communiqué, je cite, l'instrumentalisation de l'organisation par la RDC avec le soutien de certains États membres. La Guinée équatoriale, où par ailleurs le président Teodoro Obiang vient de gracier les 2 ressortissants sud-africains arrêtés en 2023 et condamnés à 12 ans de prison pour trafic de drogue. On se rappelle qu'ils avaient été arrêtés peu après la saisie par la justice sud-africaine de plusieurs biens appartenant au vice-président équato-guinéen et qui est également le fils aîné du chef de l'État. Ce sera l'un des temps forts de l'actualité internationale la semaine prochaine. On se projette à demain à Nice, dans le sud de la France, où les dirigeants mondiaux vont se pencher sur le sort des océans. Une question qui concerne toute la planète, par exemple en Afrique de l'Ouest, où les communautés de pêcheurs tirent la sonnette d'alarme sur l'état d'épuisement des océans. Écoutez par exemple le témoignage de Tchernorba, capitaine du port de Tombo, c'est en Sierra Leone.
Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui, mais surtout, il n'y a plus de poissons et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10 ou 11 heures qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson. Il y a beaucoup plus de bateaux qu'avant et certains utilisent des techniques de pêche destructrices pour l'environnement qui empêchent les poissons de se reproduire. Ici, la pêche est la seule option. On n'a pas d'usine. On n'a pas d'autres secteurs d'activité. La seule chose que les gens savent faire, c'est pêcher. Donc, les jeunes qui sont nés ici se lancent automatiquement dans la pêche. Aujourd'hui, les choses se sont modernisées. Pourtant, là où autrefois on dépensait peut-être 20 litres, 30 litres d'essence pour aller attraper du poisson, c'était possible de faire des affaires. Mais aujourd'hui, il faut peut-être dépenser 100 litres, 150 litres de carburant pour arriver au même résultat.
Tchernorba, capitaine du port de Tombo en Sierra Leone. Et notez que demain, RFI vous proposera une édition spéciale sur ce sujet des océans. Ce sera après le journal de 8h, heure de Paris. Enfin, les sports, avant de retrouver Elga, c'est la deuxième partie de l'émission Afrique, mémoire d'un continent. Les sports avec du football et des matchs amicaux en ce moment, comme celui de la Côte d'Ivoire qui jouait cette nuit contre la Nouvelle-Zélande. Défaite 1-0 pour les éléphants, malgré une très nette domination. Écoutez, Emers Faye, le sélectionneur ivoirien.
On a manqué de précision dans les derniers gestes, que ce soit les centres, les passes, les dernières passes, les orientations, les choix. On a réussi à sortir le ballon comme on voulait, mais dans les 30 derniers mètres, on a été trop défaillants, que ce soit techniquement ou que ce soit même tactiquement sur les choix de jeu. Quand on devait centrer, on n'a pas centré. Quand on devait dédoubler, on l'a pas fait. On a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Il y a des jours comme ça où vous arrivez à avoir des situations. Mais il y a toujours un pied, un tibia, un genou de l'adversaire pour gêner. Après, derrière ça, on a manqué peut-être de lucidité.
Emers Faye, sélectionneur des éléphants ivoiriens qui joueront mercredi contre le Canada. Et en attendant, parmi les matchs à suivre aujourd'hui, il y a cet autre match amical entre les Léopards de République démocratique du Congo et Madagascar qui se joue à Orléans, dans le centre de la France. Pour l'instant, il est 10h40 ici à Paris. Passez une excellente journée sur RFI.